Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, les Orech Yamim Tovim Veshanim Nehemim. Nous poursuivons notre étude du Chumash, nous sommes Parashat Veichi. Ezenu Beshem Adonai Ose Shamaim Vares. Alors la Parashat commence. Veichi Yaakov Veres Mishraim Sheva Esre Shana. Yaakov a vécu en terre d'Égypte, dans le pays d'Égypte, 17 ans. Veichi aimé, et ce fut les jours de la vie, les années de la vie de Yaakov sont au nombre de 147 ans. Cette paracha-là est fermée. On remarque immédiatement dans Sefer Torah qu'il n'y a pas aucun espace entre le dernier mot de la paracha précédente et le premier de celle-ci. Donc c'est ce que nous disent les Chachamim, que cette paracha-là est stouma. Certes, dans la Torah, mais elle est particulièrement stouma. Dans la Torah, il y a deux sortes. Quand on ouvre un chumash, les paragraphes, ils sont coupés parfois avec un P. Ça signifie que la paracha, elle est ptoucha, c'est une paracha ouverte. D'un sujet à l'autre, il y a un espace assez large. On saute deux lignes. On saute une ligne, on passe à la ligne suivante. Et parfois avec un samer. Et quand il y a un samer, il y a l'espace entre les sujets est plus réduit. Paracha Stouma, la paracha est fermée. Fermée comment? Pas fermée totalement, il y a un espace de 9 lettres. Ici, elle est particulièrement fermée. Et le Midrash l'indique dans, au début de Midrash Rabba. Il pose la question, il dit « Lama paracha Stouma miko la parashiot chez la Torah ». Elle est particulièrement fermée, refermée, repliée, plus que toutes les autres parachiot qui sont fermés, qui existent dans la Torah. Alors, ça c'est la question, c'est étonnant. Et là, Kevan Sheniftar Yaakov Avinu. Alors, la réponse du Midrash est que, puisque Yaakov Avinu est décédé, Itraïla Sheabod Mitzrayim al Israël. L'exil, l'oppression de l'Égypte a commencé sur les enfants d'Israël. Bien qu'a priori, ça n'a pas commencé. Ça commencera à la fin, au décès du dernier des enfants. Et bon, un peu plus tard, beaucoup plus tard. Donc c'est pas immédiatement. Mais malgré tout, on peut dire que l'esprit de l'exil a commencé à se faire. Les Égyptiens ont commencé à vouloir que les Bnei Israël travaillent pour eux, etc., qu'ils puissent accéder à des postes de responsabilité, qu'ils produisent pour les Égyptiens. Autre explication, d'avoir à her, la maïstouma, mi pene shebike sheakov avinu le galot et taket, venista mimeno. Nous verrons plus tard que quand il rassemble ses enfants pour les bénir, en vérité, son intention était de leur dévoiler la fin des temps. Et ta quête. Ta quête, ça veut dire la fin. La fin des jours. La fin des yamin. Quête sa yamin. Est-ce que c'est la fin de l'exil en Égypte? Ou est-ce que c'est la fin de tous les exils? Nous verrons. D'avoir à faire, autre explication. Donc c'est une troisième explication. La ma istuma mi pene she satan mimenu kol tsarot shebaolam. Il a refermé sur lui toutes les souffrances du monde. Alors de quoi il s'agit? Les commentateurs disent que nous avons vu précédemment que Yaakov Avinu, quand il se présente devant Pharaon, il dit, quel âge tu as? Tu parais vieux. Pharaon lui pose la question, tu parais vieux? Il lui dit, j'ai 130 ans, je n'ai que 130 ans, mais bien que j'en paraisse beaucoup plus à cause des souffrances, des épreuves et des tourments qui se sont abattus sur moi. Donc 130 ans de lutte qui laisse une trace sur Yaakov. Mais non, 17 ans, les derniers 17 ans, voyez. C'était 17 ans idylliques, quelque chose d'extraordinaire. Donc les 17 ans de quiétude, de tranquillité, de prospérité, de contentement, de satisfaction, toute cette vie paisible qu'il a, lui a fait oublier les 130 ans qui précèdent. Et à ce sujet, on peut faire une parenthèse, que Yaakov Avinu, il est considéré comme étant le Gilgul de Adam Arishon. Le Gilgul de Adam Arishon, ça signifie que la Gemara, nous dit que Choufré de Yaakov, Ken Choufré de Adam Kadma. La splendeur, la structure, la beauté, le rayonnement de Yaakov, du visage, la structure de Yaakov ressemble un peu à celle de Adam, le premier homme. Alors, le premier homme, il a fauté. Il est dit dans Bereshit qu'après que Caïn ait tué Abel, Adam Arishon est tombé en dépression, il était désespéré. Donc il voulait plus avoir d'enfants. Il dit, c'est les enfants, ils vont s'entretuer, c'est quelque chose d'abominable. Donc il s'est senti responsable. Donc il n'a pas voulu avoir des enfants. Pendant 130 ans, il est séparé. Et c'est seulement après 130 ans qu'il va donner naissance à Chet. Durant ces 130 ans, c'est une période d'épreuve pour Adam Arishon. Il ne donne plus la vie. Et il faute, ou c'est considéré comme étant une faute, parce que il va avoir, pendant ces 130 ans, des pertes de semences qui sont en vérité l'éparpillement des étincelles de Kedusha, qui se répandent ça et là, et qui va falloir plus tard récupérer. Donc, Yaakov Avinu, durant toute sa vie, il prépare, en fait, l'exil en Égypte, il prépare la réparation, la récupération, et le rétablissement de ce que Adam Arishon a, entre guillemets, détérioré. Et donc, c'est la période d'épreuve. Les 17 dernières années, c'est là où va se réaliser les choses, où les choses sont mises en place et pratiquement est enclenchée la réparation de manière au niveau de ses enfants. Donc, c'est pour cela que c'est comme si que nous disions que les 17 années ont fait oublier Yaakov les 130 de souffrance et d'épreuve. Donc nous avons ici trois justifications pourquoi la paracha est fermée. En général, la Torah, nous disent les maîtres, elle est écrite, la Torah qui a été aperçue par Moshe Rabbeinu, elle est écrite une encre noire sur une encre blanche. Donc, en réalité, les lettres, elles sont écrites en noir sur un fond blanc. Et entre les lettres, il y a du blanc. Entre les mots, il y a du blanc. Et entre les phrases, il y a du blanc. Entre les paragraphes, il y a du blanc. Quel est le sens de ce blanc? Le blanc qui permet en fait l'écriture. Si les lettres étaient entièrement collées et qu'il n'y avait aucun blanc entre les lettres, si cela est possible, ça permettrait pas la lecture. Ça ne permettrait pas la compréhension. Donc il s'agit de couper les lettres, de séparer les lettres, de séparer les mots, de séparer les phrases, de séparer les paragraphes, les sujets, de sorte que nous puissions comprendre. Donc, quand Akadosh Baruch Hu parle à Moshe, il lui parle de telle manière que Moshe puisse comprendre. Donc, c'est ça le sens des ta'amim. Les ta'amim, c'est la ponctuation et l'intonation. Ce qui permet, la manière de parler permet aussi la compréhension. Quand on lit un texte, la manière de lire indique le sens. La manière de lire est impliqué, dépend du sens du texte. Donc c'est ça le sens que nous devons donner au sujet. Il y a des sujets qui sont ouverts, entre les sujets il y a Parasha Petucha qui est particulièrement ouverte, on va à la ligne, on laisse un grand blanc, et parfois il faut laisser que 9 lettres. C'est ce qu'on appelle Parasha Stouma. Donc c'est pour permettre, selon la difficulté, pour permettre à celui qui entend, celui qui reçoit la parole, de méditer, de comprendre, de réfléchir Donc, parce que l'essentiel de la transmission n'est pas ce qui est transmis, c'est ce qui n'est pas transmis. Le non-dit est beaucoup plus profond et important que ce qui est dit. Ce qui est dit est dit. Mais non, qu'est-ce que je peux déduire de ce qui est dit? Qu'est-ce que cache le texte? Quels sont les secrets qui sont enfouis derrière? Ça, c'est le blanc. Le blanc, donc, a un impact, une importance beaucoup plus forte que l'écriture elle-même. C'est le sens, nous avons dit, des ouvertures qu'il y a entre les parachutes, entre les mots, entre les lettres et entre les paragraphes. C'est pour permettre la compréhension, pour permettre la réflexion. On prend du temps d'entendre, de méditer, de réfléchir, de déduire. Pour comprendre, on fait jaillir la lumière. Et on arrive aussi, le bon maître, le vrai maître, c'est celui qui permet, qui ne dit pas tout. Nous disait Chachamim, le maître, c'est pas celui qui fait un cours magistral et qui ne laisse pas un instant de répit à ses élèves. Il débite les choses sans laisser le temps à son auditoire d'enregistrer, de prendre le temps de respirer. Il débite des milliers. Donc en vérité, on comprend rien. Il parle pour faire un cours magistral. C'est lui qui est magistral. Mais les élèves, qu'est-ce qu'ils en ont retenu? Ils n'ont pas le temps d'assimiler. Le bon prof, le bon maître, c'est celui qui ne dit pas tout. Il prend son temps. Il choisit ce qu'il a à dire de telle sorte que celui qui entend, il donne les clés du savoir, en fait. Il donne les clés de la réflexion. Il donne des éléments qui vont permettre à celui qui entend d'aller au-delà de ce que lui-même a enseigné. C'est ce qu'on appelle la tevuna. Tevuna signifie que le maître choisit de son immense connaissance. Il a une connaissance encyclopédique énorme. Et il choisit quelque chose. Il condense sa connaissance et il choisit quelque chose de sa connaissance qu'il va transmettre, qu'il met à la portée de son élève. Et l'élève, en entendant ce que le maître lui transmet, va pouvoir lui-même développer et parvenir et faire son expérience, dévoiler lui-même. Et c'est ce que l'élève dévoile qui est le plus important. C'est le blanc, le non-dit. Ici, c'est tout fermé. Ici, nous disent Chachamim que entre le dernier mot de la paracha précédente et le premier de celle-ci, il n'y a pas le temps de la réflexion. Tout est fermé. Comme si que nous n'avions rien à tirer de ça. Nous pouvions rien déduire. Comme si que tout avait été dit et de telle manière que nous, avec un débit tel que nous n'avons pas le temps de prendre du recul pour pouvoir en déduire quoi que ce soit. Alors, remontons au dernier passage que nous avons lu de la paracha précédente. Qu'est-il dit? Voyez, chef Israël, Be'eretz Misraïm. Israël s'est installé en pays d'Égypte. Où ça? Be'eretz Goshen, dans le pays de Goshen. Après, il est dit, voyez, Hazuba. Alors, c'est tout d'un coup, on passe au pluriel. Voyez, Hazuba, ils s'en sont saisis, ils se sont appropriés cette terre, Ba, Eretz Goshen. Voyez, Frou, ils ont été féconds, ils se sont multipliés, ils ont été féconds, et ils sont multipliés beaucoup, donc ils sont devenus très nombreux. Voyez, Hazuba, voyez, Frou, voyez, Bouméot. Et tout de suite, il est dit, donc ici, il est indiqué une prospérité exceptionnelle, une fécondité, une multiplication, c'est quelque chose, le peuple se multiplie, donc il y a une multiplication des individus, un renforcement de la famille de Jacob. Il y a une abondance et une réussite matérielle. Donc ils sont devenus les possesseurs pratiquement de la terre de Goshen. Alors à ce sujet, il y a ici mention qu'au début c'est marqué « Vayeshev Israël Be'eretz Misraïm », il s'agit de Yaakov. Alors pourquoi tout d'un coup on passe au pluriel? C'est pour indiquer que cette prospérité, cette multiplication, cette bracha exceptionnelle qui se passe ici, elle est due à l'unité. C'est ce qui est marqué. Voyez, chef Israël, Israël, c'est Yaakov. Mais en tant qu'Israël, il y a ici une union parfaite entre les individus, les membres de la famille de Yaakov, qui sont de tels que la prospérité et la bracha peut résider. Donc, voyez, Hazouba, voyez, Fou, voyez, Bouméon. Ils se sont multipliés plus que cela puisse être entendu. Pratiquement plus que rationnel, plus que de raison. Et tout de suite, il est dit, Vayahia, Koberes, Misraim. Tout de suite, la paracha, elle est collée. Comme si que c'est, on nous annonce la disparition. Le fait que ce soit collé indique que la galoute va commencer. Donc, est-ce que la galoute, elle est due à la prospérité d'Israël à Goshen? On dirait que c'est lié. Pourquoi, alors si c'est comme ça, pourquoi ne pas avoir relié, en fait, on aurait pu, si c'était ça l'idée, on aurait pu lire parachat ce qui précède, avec la paracha d'aujourd'hui, d'un trait. On aurait dû dire, mais la difficulté c'est qu'il n'y a qu'un pasouk, on peut pas couper un pasouk. Avant une paracha, on peut pas couper juste un pasouk, ça c'est pas possible. Donc il faut qu'on comprenne au moins trois psukim qui précèdent. Mais on peut pas parce qu'il y a qu'un pasouk et ce qui précède n'a aucun rapport. Il s'agit du partage, comment Yosef a pris possession, comment les Égyptiens se sont vendus pour avoir pour de la nourriture, donc ils se sont mis au service de Pharaon et de Yosef, etc. Donc c'est technique, ça n'a rien à voir avec les enfants d'Israël. Donc on peut pas couper. Donc on a coupé ici. Donc comme si que le fait qu'ils se sont développés, qu'ils ont réussi économiquement, qu'ils ont réussi socialement, qu'ils se sont renforcés, c'est ça qui va amener le galout. On dirait que les deux sont liés. Et certes, la multiplication ici fait référence, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, au fait que nous avons indiqué que pendant 130 ans, Adam Rishon a eu des pertes. Ces pertes-là doivent être récupérées parce qu'en fait, ce sont les âmes des enfants d'Israël qui sortiront d'Égypte, qui recevront la Torah. Et cette multiplication-là, par la présence de Yaakov Avinu en Égypte, agit sur les Nitzotzot à Kedusha qui sont éparses, ça et là dans ce pays, elle agit comme un aimant, donc ils sont attirés. Et donc la multiplication, c'est comme si on pourrait comprendre cela, c'est comme si qu'il y aurait des conversions énormes, beaucoup de gens aspirer à adhérer à la Torah et à se convertir de manière sincère et totale. Alors là, c'est cet ordre-là, c'est cette dimension-là. C'est pas qu'il y a eu des conversions, c'est-à-dire que les nitzotzot, les énergies éparses, ça et là, en Égypte, où qui contient, de par le fait de Yosef, de par le fait de la famine, toutes les richesses du monde antique se sont déversées en Égypte, dans les trésors de Pharaon. Ces trésors-là contiennent ces énergies-là, et c'est les Bisraëls qui vont les emporter à la sortie d'Égypte. Donc c'est ce surplus de prospérité qui fait que la galoute peut commencer. Alors c'est ça la raison même de l'exil. Comme Yaakov Akadosh Baruch Hu lui a indiqué lors de sa descente en Égypte, quand il s'arrête à Beersheba et que la vision prophétique lui apparaît, dans la vision nocturne, Akadosh Baruch Hu lui dit, et en Égypte, je te ferai de toi un grand peuple, je te multiplierai. Donc c'est ça la finalité de la sortie, de la descente en Égypte. Et là, il est dit, Vayahi Yaakov Beret Misraim Sheva Esrechana, donc le Tov, le meilleur, Vayi Eme Yaakov, 147 ans, ça signifie que l'apogée de la vie de Jacob arrive à son terme, la réalisation se fait, et que les enfants, lui, il peut se retirer et laisser ses enfants poursuivre son œuvre. Ce sont ses enfants qui iront de l'avant. Maintenant, il y a ici à ce sujet, le Ramban dit de quel exil il s'agit. Le Ramban dit très intéressant, ce Ramban. Il nous dit, j'ai déjà mentionné que la descente de Yaakov en Égypte correspond à notre exil sous la domination de Rome, sous la domination de Édom. Qui béné Yaakov, car c'est les enfants de Yaakov, hem atzmam, si vous ridetam. C'est eux qui ont causé la descente. C'est-à-dire qu'en vérité, l'exil, il est de notre fait. Ce sont nous. C'est nous qui causons notre exil. Comment? Alors ici, en Égypte, c'est parce que les enfants de les frères ont vendu Yosef en Égypte qu'ils se retrouvent en Égypte. Et c'est pour cela que, au début, Pharaon est ami de Yosef, ami de Yaakov, mais après ça va se renverser. Et c'est ainsi que ça s'est passé au début de l'exil de Rome. Ce sont les enfants d'Israël qui ont été cherchés à faire alliance avec les Romains. Et que Agrippa, s'il a signé alliance avec eux. Et c'est après seulement que les Romains se sont installés. Et tout ça va amener à notre exil et notre dispersion. Donc on voit que c'est lié. Donc c'est cette idée-là. Et cet exil-là, nous dit le Ramban, sache qu'on ne peut pas percevoir la fin de l'exil. L'onoda kitso. On ne peut pas apercevoir la fin de l'exil. Et c'est marqué ça dans beaucoup de sfarim, qu'il est impossible de voir que l'exil arrive à son terme. Le Ramchal dit dans la vision de Yaakov, dans la vision que Yaakov a de l'échelle, dans l'échelle, il voit le quatrième ange monter, il ne le voit pas descendre. Et c'est Akash Borou qui lui dit, même s'il monte et il va s'installer parmi les étoiles, c'est moi qui le descendrai. Comment je le descendrai? C'est Akash Borou qui intervient de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que de l'intérieur de l'exil, il n'est pas donné d'en percevoir la fin. Et à ce sujet, il y a un verset très intéressant dans Isaïe. Dans Isaïe au chapitre 9, quand Isaïe prédit et informe la venue de l'enfant de David Améler, du Mashiach, alors il dit, qui est l'édoula de l'anneau? Voilà, c'est un enfant qui va naître. Ben nitan l'anneau, c'est un fils qui nous est accordé. Vatihi, un misra al shichmo, et la souveraineté, le rôle, la fonction la plus de conduire le peuple sera posée sur ses épaules, reposera sur ses épaules. Il crache mot peleyoet, il sera qualifié de conseiller merveilleux. Donc ça veut dire qu'il sait où il va, tout ce qu'il fait réussit. El Gibor, un héros divin, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu réussit. Lui l'accompagne et permet la réussite de tout ce qu'il entreprend. Aviad, le père de la conquête. Sar Shalom, il établira la paix totale. Les Marbé Amisra, le mot les Marbé Amisra qui signifie l'agrandissement de son empire. L'agrandissement de l'empire d'Hachem, le mot « les marbé », il s'écrit « lamed mem resh bet he ». Mais dans l'écriture, il est écrit le « lamed » est suivi d'un même satoum, d'un même fermé. Le « marbé » à Misra, ce même-là est fermé, alors que c'est pas une lettre finale. Le même à l'intérieur du mot, il devrait être un même ouvert. Mais ici, il est fermé, c'est un même comme on dit. On écrit Mitzrayim. Pourquoi en Égypte le même final est fermé? Parce que d'Égypte on ne sort pas. Parce qu'on ne voit pas la sortie d'Égypte. On peut pas imaginer quand nous sommes en Égypte de pouvoir en sortir. Il en va de même ici, nous disent les Mfarshim, les Marbé à Misra, son rôle est d'agrandir ou de multiplier l'empire de Dieu, d'assurer une paix sans fin, en kes al kisse David va mumblarto, sur le trône de David et sur son royaume. Et ici, le même, il est fermé. On dit les Mfarshim, le même, il est fermé, c'est parce qu'on ne peut pas avoir la fin du galout. Donc, il est impossible de savoir, même. Les signes, Chachamim ont donné des signes, mais ça ne signifie pas que les signes sont des vrais signes. C'est des signes, c'est des indications. Mais en réalité, la fin du galout, elle n'est pas donnée à être aperçue. Comme il est dit ailleurs dans la Gemara, il dit « J'ai dévoilé cela à mon cœur, je ne l'ai pas dévoilé à ma bouche. » Donc c'est quelque chose qui n'est pas donné. Et c'est pour ça qu'ici, la paracha l'estouma. La paracha à l'estomac, c'est pour éviter, pour sortir, éliminer de toute pensée que l'on peut savoir à quel moment la Géoula peut se produire. La Géoula peut se produire à tout moment, mais nous n'avons pas d'effet. On peut pas palper les choses. Il n'y a rien de rationnel, de voir que la Géoula jaillit, on ne peut pas la voir. C'est ce qui est marqué, c'est ça ce que nous indique ici la notion de fermeture. Nous n'avons pas la capacité de décoder, de comprendre dans le blanc, dans l'espace blanc qui nous est donné, de comprendre ou de savoir interpréter pour définir à quel moment la Géoula finale se produira. C'est ça la notion de Parasha Stouma, elle est particulièrement fermée. Alors que dans toute la Torah, et la Torah orale, elle vient pour donner sa valeur à la Torah écrite. S'il n'y a pas le commentaire, si nous interprétons pas le texte n'a pas de valeur. Quand quelqu'un parle, quand quelqu'un fait un cours, si on lui pose pas des questions ou on l'interpelle pas pour raffiner, pour comprendre le mieux possible ses paroles, c'est-à-dire qu'on s'intéresse pas. Un raf fait un discours. Personne ne pose de questions. Ça veut dire on s'intéresse pas à ce qu'il dit. Si on s'intéresse à ce qu'il dit, alors on intervient, on pose des questions, on demande des précisions, on demande des preuves, on peut raisonner différemment, on demande des sources. C'est-à-dire, la question ne signifie pas qu'on dédaigne ce qu'il dit. La question signifie qu'on s'intéresse à ce qu'il dit. La même chose, la Torah est posée, la Torah écrite est posée. Si on n'interprète pas, si on ne pose pas des questions pour expliquer, alors ça veut dire qu'on s'intéresse pas au texte. Et c'est ça, il est dit que tous les jours, là, dans les Pirkei Avot, il est dit que tous les jours, une voix céleste se fait entendre et dit « Malheur à vous, créatures, qui faites honte à la Torah. » Parce que vous posez pas de questions, vous vous interrogez pas, vous ne donnez pas la valeur aux choses. Donc si on interprète, ça veut dire que le texte, il a une valeur. Et ici, ce point-là, comme le souligne Mahmoudine, il n'est pas donné à interpréter. Il apparaîtra subitement par intervention extérieure d'Akadosh Baruch Hu, comme il est dit, et s'il se place parmi les étoiles, c'est moi de là-bas, je le ferai descendre. Et à ce moment-là, la délivrance, de suite, nous parviendra. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.